Le CDCA, le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, vise à faire valoir les droits de personnes en situation de handicap ou âgées. Son objectif est de favoriser la démocratie participative au niveau local et de s'engager dans les politiques publiques territoriales pour améliorer les services proposés aux usagers et donc la qualité de leur vie. Nous recevons aujourd'hui sur Radio Onden Cécile Dupas et Christine Vidal-Manivy, vice-présidentes toutes les deux du CDCA, le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Bonjour mesdames, bienvenue sur l'antenne de Radio Onden.
Bonjour.
Alors pour débuter, très simplement, comment vous l'expliquez-vous le CDCA dont vous êtes les vice-présidentes? Quelles sont les grandes lignes que vous utilisez pour l'expliquer?
Eh bien, tout d'abord, je vais dire quelques mots sur l'histoire du CDCA de façon à ce qu'on comprenne un petit peu d'où nous venons, puisque en 2015 a eu lieu la loi d'adaptation de la société au vieillissement, au sein de laquelle nous avions eu une transformation du CODERPA, qui était donc le comité départemental des retraités et personnes âgées, qui à l'occasion de cette loi a été transformé en CDCA, donc tel que vous l'énonciez tout à l'heure. Et nous sommes donc deux vice-présidentes à ce jour, formation personnes âgées pour ce qui me concerne et handicap pour Madame Dupas.
Voilà, et du côté des personnes en situation de handicap, l'instance qui existait auparavant était le CDCPH, donc le Conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Donc les deux se sont regroupés, à la fois le CODERPA et le CDCPH, pour former le CDCA.
D'accord.
Du coup, il y a donc une formation personnes âgées, une formation personnes handicapées avec une vice-présidente à chaque formation.
Alors sa structuration du CDCA, quelle est-elle? Qui sont les personnes qui font partie de ce conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie?
Alors il y a les représentants des associations, à la fois des associations du champ du handicap et du champ des personnes âgées. Il y a aussi des organisations syndicales. Qu'est-ce que j'oublie encore?
On pourrait dire que le président,
oui, le président
du conseil départemental...
Et le président du conseil départemental, voilà, le président est un élu.
Alors, si l'on observe de loin le rôle du CDCA, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des actions ou est-ce que ce sont des conseils et des regards portés sur ce qui se passe et ce qui est décidé au niveau des institutions et autres d'ailleurs?
C'est un peu les deux, en fait. Au départ, c'est quand même une instance consultative. C'est-à-dire, c'est une instance qui est consultée pour donner des avis sur la politique départementale, aussi bien au niveau des personnes avec handicap que des personnes âgées. Donc, on peut donner des avis sur les plans départementaux, le PRS aussi, le plan régional de santé, par exemple. Voilà, on va donner des avis là-dessus. Et puis, il y a aussi des actions un peu plus particulières au travers des groupes de travail. Je vais peut-être laisser Madame Vidal continuer sur les groupes de travail.
Alors, donc oui, effectivement, il y a donc 5 groupes de travail. Ça se décline en des thématiques particulières. Donc, nous avons l'aide aux aidants, le droit des usagers, l'habitat, et au sein de l'habitat est travaillée la question de la mobilité, très importante à l'heure actuelle, le suivi du PRS, effectivement, et le sujet le plus important à nos yeux, c'est la communication, puisque, comme je vous le disais en préambule, la question de la communication sur ce qu'est le CDCA et cette instance consultative qu'il faut absolument faire connaître à tous les citoyens, puisqu'on est en fait leur représentant. Donc c'est un sujet qu'on essaie de faire avancer.
Peut-être qu'il faut préciser que le CDCA de la Loire a choisi à ce que les deux formations, personnes âgées et personnes handicapées, travaillent ensemble dans tous les groupes de travail, aussi bien que dans le bureau, ce qui n'est pas forcément un choix obligatoire. Hein, c'est vraiment le choix qui a été fait ici.
Alors c'est une volonté, effectivement, et vous le disiez, la communication c'est important, parce que finalement vous êtes au service des usagers, et vous êtes un peu l'interface entre les usagers et puis les, entre guillemets, décisionnaires. Comment on va se faire connaître, comment vous vous faites connaître auprès de la population, comment vous dites que vous existez?
avec difficulté. On vous remercie de nous inviter d'ailleurs, parce que ça nous permet de parler de cette instance-là. C'est assez compliqué d'expliquer effectivement aux gens de quoi il s'agit. Ils pourraient dire c'est une instance consultative, donc finalement vous ne servez pas à grand-chose, sauf que si, puisqu'on est une instance qui veille à ce que les droits des personnes âgées ou avec handicap soient respectés et que les politiques départementales agissent dans ce sens-là, dans le sens du respect des droits.
D'accord. Alors, quand vous veillez à ce que les droits sont respectés, ça se fait de quelle manière? C'est-à-dire que vous allez interpeller le département quand vous allez constater peut-être dans une ville des équipements qui ne sont pas adaptés et qui pourraient être de leur ressort, ou aussi des personnes qui habitent un immeuble équipé d'un ascenseur et que l'ascenseur est souvent en panne, etc.
Je peux donner un exemple pour ce qui nous concerne, la formation personnes âgées. J'ai été invitée au titre de vice-présidente du CDCA Formation Personnes Âgées aux États Généraux d'Orpea. Et donc, c'était une invitation qui m'obligeait quelque part, en fait, parce que je me suis demandé dans quelle mesure j'allais y aller. Et puis finalement, j'y suis allée. Et bon, en fait, d'État Généraux, c'était plutôt à un CVS que j'ai assisté, un conseil de vie sociale, puisqu'il n'y avait qu'un seul élu et moi-même. Et ensuite, des représentants de famille, des représentants du personnel, des résidents qui venaient dire ce qu'ils vivaient dans leur PA qu'ils nous recevaient, enfin dans la résidence Orpea qu'ils nous recevaient. Donc ce n'était pas vraiment pour moi des états généraux qui venaient dire ce qu'Orpea venait de vivre, ce qu'ils devaient mettre en place pour améliorer les choses, etc. Et donc c'est vrai que ça fait partie de notre mission de représentation des usagers, d'aller dans des endroits où on a ce titre de vice-présidente et on peut à ce titre dire certaines choses, quoi.
Et assister.
Voilà. Et assister, ouais,
j'étais pareil. Et témoigner.
Voilà, okay. Témoigner surtout.
Et éveiller, effectivement. Oui, alors par exemple, moi, pour les personnes avec handicap, j'ai effectivement été invitée en tant que vice-présidente du CDCA à un travail avec la CNSA, c'est peut-être un peu compliqué, mais sur la création d'une cinquième branche sécurité sociale pour l'autonomie.
D'accord.
Voilà. Donc on est invité aussi pour donner un avis, pour participer, apporter des éléments à la discussion. On est aussi invité à des commissions qui, suite à des appels à projets, pour par exemple construire des résidences ou accorder des places, soit pour les personnes âgées ou les personnes handicapées. Donc on est invité à donner notre avis là-dessus.
Les relations que vous avez avec les représentants du département, quelles sont-elles? Comment vous organisez avec?
Alors, il y a effectivement les techniciens du conseil départemental avec lesquels on travaille de façon très rapprochée, aussi bien sur tous les aspects un peu techniques, en fait, hein, la préparation des réunions, les comptes rendus, voilà, ce genre de choses. Et effectivement, ils sont précieux. Ils sont précieux pour nous dans ce travail-là, sachant que au bout du bout, la parole, c'est la nôtre. C'est la parole des associations qui composent le CDCA et pas une parole du conseil départemental.
Alors, vous évoquiez le fait de travailler sur des actions concrètes, notamment pour l'aide aux aidants. Qu'est-ce qui est développé?
Alors, pour ce qui concerne l'aide aux aidants, le groupe de travail a mis en place une carte d'urgence de l'aidant. Et c'est très important qu'on parle de ce genre de travail et de documents qui arrivent en finalité de ce travail, justement. Parce que la problématique, c'était quand il arrive quelque chose à quelqu'un, l'aidant, il peut lui arriver aussi quelque chose. Donc il faut qu'on ait des coordonnées pour pouvoir associer le travail des professionnels et des proches à la prise en charge, entre guillemets, de la personne aidée.
D'accord.
Donc, voilà, c'est une chose sur laquelle on a abouti. Dans le groupe de travail du droit des usagers, nous avons travaillé sur une conférence des mesures de protection, sur les mesures de protection. Donc, ça, c'était il y a 2 ans, si je ne me trompe. Et nous voulions le refaire cette année, mais finalement, on va plutôt axer notre travail sur le conseil de vie sociale que j'évoquais tout à l'heure, qui est une prévention de la maltraitance. C'est-à-dire que si on fait vivre une instance telle que le Conseil de vie sociale dans un établissement, c'est en quelque sorte donner la parole à toutes les personnes qui gravitent autour de la personne qui est résidente.
Et aux personnes.
Et aux personnes.
Parce que sur les personnes avec handicap, les CVS existent aussi. Et les conseils à la vie sociale sont vraiment des instances de participation des usagers des services médico-sociaux. Donc c'est extrêmement important que cette parole soit prise en compte, soit entendue. Et donc c'est aussi un des rôles du CDCA de veiller à ça, à ce que la parole des usagers, qu'ils soient avec handicap ou personnes âgées, soit entendue, prise en compte.
Et donc à l'occasion de ce travail, nous avons demandé au conseil départemental justement d'avoir la liste des CVS fonctionnant, enfin ou ne fonctionnant pas d'ailleurs, la liste des CVS, des établissements en tous les cas qui étaient susceptibles d'avoir un CVS dans leur sein. Et il se trouve que nous avons eu les résultats qui nous ont été à la suite de l'Assemblée plénière, nous n'avons plus eu... les résultats de cette enquête, ce qui est fort dommage, puisque nous sommes là quand même pour représenter les personnes qui habitent dans ces résidences.
Ben oui.
Et donc, voilà, nous allons nous remettre au travail pour avoir une enquête sous un autre angle, de façon à ce qu'elle nous soit présentée plus efficacement. Mais en tous les cas, le but de notre manœuvre, ce n'est pas d'être, provocant, mais c'est constructif, comme je disais tout à l'heure, pour faire valoir la parole des usagers et donc bâtir une démocratie au sein des établissements de façon à ce que la maltraitance soit un sujet, même si la maltraitance c'est quelque chose qui arrive de personne à personne, donc on ne peut pas être dans toutes les relations qui existent au sein des établissements, mais en tous les cas on peut mettre en place des choses qui permettent de la prévenir.
Et dans les services médico-sociaux pour les personnes avec un handicap aussi, effectivement, c'est très important que les personnes soient elles-mêmes ou participent elles-mêmes à ces services qui sont pour elles. On est bien d'accord, hein? Donc ce sont elles qui effectivement doivent participer à la gestion même de ces établissements médico-sociaux.
Si l'on regarde maintenant les actions autour de l'habitat et de la mobilité, quels sont vos interlocuteurs, quels sont vos travaux autour de ça?
Rapidement, sur l'habitat, les interlocuteurs sont les bailleurs sociaux et aussi toute instance, toute institution qui se tourne vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'habitat inclusif. C'est donc un habitat dans la cité, loin de tout établissement fermé et contraint pour des personnes.
D'accord. Là, quand on intervient auprès des bailleurs sociaux, c'est quoi? C'est en aménagement de l'existant ou c'est aussi en conseil autour des futurs bâtis?
C'est un peu les deux, en fait. C'est effectivement sur l'aménagement, s'il faut prendre en compte à la fois le vieillissement des citoyens et en même temps aussi les personnes en situation de handicap physique, moteur, qui ont effectivement besoin d'adaptation. Et c'est aussi comment on inscrit un logement dans la cité, au milieu de tous. Sont les enjeux d'aujourd'hui. Hein. Il ne s'agit pas de transposer un établissement fermé en ville au lieu d'être à la campagne, mais bien de voir comment les liens avec tous les aspects citoyens peuvent se mettre en place.
Avec la mobilité, on comprend bien aussi l'accessibilité, les transports en commun, etc., et l'aménagement du territoire pour que toute personne puisse se déplacer quand elle le souhaite.
Mais elle n'est pas que physique, l'accessibilité. Je reviens toujours là-dessus.
Développons.
Il y a bien sûr l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, hein, sans aucun doute, bien sûr. Mais il y a aussi toute une partie de l'accessibilité pour les personnes avec déficience intellectuelle ou difficultés cognitives. Hein, les personnes qui ne sont pas lectrices, par exemple. Comment on s'assure que monter dans un bus... que la personne sache où elle va, si elle ne connaît pas la ville, si elle ne sait pas lire, Donc il y a toute cette prise en compte-là. Et puis, en lien avec l'habitat, hein, comment les transports permettent ces liens-là?
Alors là, si on
pour
parle...
venir vous voir, par exemple, c'est pas facile pour une personne.
Mais je pense que ça peut être très difficile, effectivement, et que je pense même que c'est difficile aussi si on n'est pas formé quand on est chauffeur. Alors, je n'incrimine personne, mais si on n'est pas formé ou tout du moins sensibilisé à cette question-là, il est difficile aussi d'apporter les bonnes réponses parce qu'on peut être sollicité tout le temps et pas pour les mêmes raisons.
Voilà, mais vous faites très bien de parler de sensibilisation parce que c'est une partie du travail de nos associations déjà, hein, de base, et forcément du CDCA quand Madame Vidal parle d'information, d'organiser des conférences, voilà. C'est aussi ce travail de sensibilisation qu'on doit faire, qu'on ne fait pas assez, mais qu'on devrait faire, hein, sensibiliser les environnements. Voilà, les gens ne sont pas tous responsables. Beaucoup sont de bonne volonté, mais ne savent pas comment faire ou n'ont pas les moyens de le faire.
Ouais. Alors à ce propos, je voulais donner l'exemple en ce qui concerne la question de l'habitat sur une de nos collègues qui est au CDCA et qui a présenté lors d'une émission, alors je ne sais pas si je peux dire le nom de la...
Dites.
Alors c'était L7 qui a présenté donc un documentaire sur... La façon dont a été aménagé le logement pour son mari qui présente un handicap. Et donc, voilà, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir l'émission. Mais enfin, c'est le type d'action que nous pouvons mener en termes de communication, aussi joindre les deux bouts de la lorgnette pour pouvoir avancer.
Alors, vous évoquez depuis tout à l'heure le fait de faire remonter les paroles des usagers. Aujourd'hui, les usagers, est-ce que vous récoltez ces paroles directement au CDCA ou est-ce que ça passe par le filtre, entre guillemets, ou par le biais d'une association dédiée à la question, etc.
C'est un système représentatif, en fait, hein, le CDCA, puisqu'il est composé de représentants d'associations qui, effectivement, font remonter leurs préoccupations, qui peuvent être diverses. La base, c'est toujours la même, hein, c'est le respect des droits. En revanche, il peut y avoir des préoccupations qui diffèrent, hein, d'une association à une autre, d'une déficience à une autre. Chez les personnes âgées, je connais moins, mais j'imagine aussi, il y a des différences. Et donc, chacun fait remonter un petit peu ses questionnements, ses préoccupations et ses propositions. Et c'est bien un travail de représentation.
Si l'on parle de votre fonctionnement, quel est-il, le fonctionnement un peu invisible? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lieu physique où vous vous réunissez, le CDCA, avec des horaires, etc. Est-ce que, voilà, expliquez-nous un peu ce fonctionnement-là aussi au quotidien.
Oui, il y a des réunions plénières, on va dire. Ça, c'est, ce sont un peu les grands messes, on va dire, entre guillemets. Il y en a deux par an, en principe. Où là tout le monde se réunit, c'est voilà. Et puis de façon régulière, on a des réunions de bureau plénier, c'est-à-dire plénier parce qu'il y a à la fois les représentants des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Je sais quelle est la fréquence de ces réunions, tous les deux mois à peu près, voilà, tous les deux mois on se réunit en général dans les locaux du conseil départemental rue d'Arcole. Il arrive qu'on se réunisse ailleurs, hein, notamment, mais c'est plus les groupes de travail qui vont se réunir ailleurs. Alors le rythme des groupes de travail, il est fixé un peu dans chaque groupe. Il y en a qui se réunissent plus que d'autres. Voilà, mais c'est plus fréquent que les bureaux, en fait, hein, les réunions de groupes de travail.
Il faut aussi noter ce qu'on disait tout à l'heure, c'était l'aide des techniciennes administratives du conseil départemental qui nous est vraiment précieuse, hein, cette aide. Hein. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Je vois dans l'atelier auquel je participe, le droit des usagers, nous avions deux animatrices et maintenant nous n'avons plus qu'une qui va bientôt partir. Et mon souci, c'est d'alerter lors de l'assemblée plénière sur le départ de cette dame, parce qu'en fait, nous, on peut effectivement donner un petit peu la marche qui est suivie, mais en fait, elles sont très dynamiques, très rigoureuses et très efficaces. Enfin, du coup, en fait, de l'expérience que nous en avons, en tout cas, on ne peut que se réjouir, parce que tous les CDCA de France ne fonctionnent pas de la même manière. Je suis là aussi pour dire ça, que dans la Loire, on se réjouit quand même de... Même si nous n'avançons pas aussi vite que ce que nous le souhaiterions parfois, mais nous avançons, donc voilà, nous considérons que nous sommes à la bonne place.
Alors pour terminer, quels sont les entre guillemets grands chantiers à venir pour la rentrée, par exemple? Est-ce que il y a des projets déjà écrits, inscrits et à travailler, ou d'autres actions d'ailleurs? Comment va se passer la rentrée du CDCA?
Alors nous avons déjà notre assemblée plénière, donc qui va se tenir et pour laquelle nous avons non seulement une grand-messe, mais en fait, chacun peut exprimer quelque chose sur, et témoigner des travaux que nous effectuons. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. Et ensuite, c'est le compte rendu qui en sera pour nous le plus important. C'est-à-dire, on aimerait, disons, que, comme je vous disais tout à l'heure, que dans Loire Magazine, nous ayons un encart tous les deux mois lié au CDCA, enfin, qui relate les travaux du CDCA. Et nous allons le mentionner encore une fois lors de cette assemblée plénière. Pour la rentrée, nous, je vous parlais tout à l'heure de ce travail sur le CVS. Notre travail, ça va être de mettre en place cette conférence, comme on avait fait sur les mesures de protection. Là, ça sera sur le Conseil de vie sociale. Et nous allons faire une information au grand public et aux professionnels, s'ils le souhaitent. Mais ça sera pour un travail qui sera fait au début de l'année 2023, parce que ça demande quand même pas mal de procédures et de recherches.
Un autre grand chantier, c'est la réécriture du schéma départemental de l'autonomie, puisque le schéma actuel arrive à son terme, c'est un délai de 5 ans. Donc là, on arrive au terme du schéma. Voilà. Donc il faut penser à la réécriture du schéma départemental pour les années à venir, et ce chantier va être mis en route. Donc il y a les grandes idées, et puis il y a des fiches actions, donc des fiches actions qui vont être réactualisées, peut-être, certainement en tenant compte de ce qui a été fait pendant le schéma précédent, de voir ce qui reste à faire, comment ça a évolué, quels sont les nouvelles pistes pour ce schéma, voilà, les nouvelles propositions.
D'accord.
Voilà, parce que nous sommes aussi représentantes au sein d'autres structures, comme l'expliquait Mme Dupin, et donc la CNSA, c'était le niveau national, mais il y a aussi la CRSA, qui est le niveau régional, donc Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie, auquel je fais partie. On a une réunion d'ailleurs cet après-midi en ce qui concerne le grand âge et l'autonomie, et là j'ai participé donc à une réunion la semaine dernière à Lyon sur la question du grand âge et aussi de la précarité, mais aussi des jeunes qui ont beaucoup de propositions à faire à l'ARS, et auxquels j'ai dit les jeunes, vous avez beaucoup de propositions à faire, faites-le savoir au ministre de l'Éducation nationale, parce que vous pouvez avoir aussi des messages à faire passer.
Eh bien écoutez, on a fait le tour, un petit tour, le début du tour du Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Merci à vous deux, vice-présidente donc de ce CDCA, Cécile Dupas et Christine Vidal-Manivy. Merci à vous et à bientôt.
Merci.
Merci à vous.